Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est très précisément 18h à Kinshasa. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. Les FARDC maintiennent la pression sur les rebelles du M23 à Tchanzo et à Runyonyi au lendemain de l'offensive d'hier au Nord Kivu. Le bilan actuel fait état de quelques soldats blessés et de beaucoup de rebelles capturés. En Ituri, 15 000 élèves de 60 écoles du territoire de Mambasa n'étudient plus depuis 3 mois. C'est à cause de l'activisme des rebelles ougandais de l'EDF. Les autorités scolaires redoutent une année blanche. Notre invitée, c'est la directrice générale de la mobilisation des ressources, partenariat et financement à l'Alliance du vaccin. Madame Marie Saraka Yao affirme que la RDC est l'un des pays qui ont un taux de couverture vaccinale de base de près de 90%. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Polydor Basunga. Au Nord Kivu, les FARDC maintiennent la pression sur les rebelles du M23 dans les régions de Tchanzu et Runyonyi, groupement de Djomba, après l'offensive d'hier. Le porte-parole des opérations Sokola 2 parle d'avancées significatives sur la ligne de front. Le bilan dressé par le lieutenant-colonel Njike Kaiko fait état de quelques soldats et FARDC blessés et de beaucoup de rebelles capturés. Sans d'autres détails. Le point de la situation avec vous, Sifa Maguru.
D'après les porte-parole des opérations Sokola 2 qui se trouvent dans la région, les affrontements se poursuivent autour des collines stratégiques de Runyonyi et Tchanzu. Il appelle la population de Djomba à faire confiance et à soutenir l'armée qui continue à gagner du terrain. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume.
Nous sommes au-delà de Djomba, sur la colline de Ishangi, c'est au moins à 6 km vol d'oiseau de Runyonyi. Les forces armées de la République démocratique du Congo, à chaque bataille, elles gagnent le terrain et l'ennemi est tenté de reculer. Là, c'est que toutes les crêtes autour de Runyonyi et Tchanzu, où l'ennemi a mis son commandement, ont récupéré presque toutes ses crêtes, et notamment à Bougoussa. Donc lentement mais sûrement, nous sommes vers les objectifs. Je pense que nous allons finir par mettre hors d'état de nuire cet ennemi qui est venu troubler la quiétude de la population de Rutshuru.
Par ailleurs, la société civile de Rutshuru indique que la population de Mihika, localité située entre les groupements de Djomba et Bouiza, s'est déplacée à cause des bombardements pour se réfugier vers Ntamugenga et Rutiro dans la même région. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Nord Kivu encore. Une délégation de la MONUSCO Beni a séjourné hier à Masambo, une localité du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. Cette localité avait été attaquée par des rebelles ougandais de l'EDF dimanche et lundi dernier, faisant plusieurs morts. Objet de cette mission, échanger avec les acteurs concernés sur la situation sécuritaire, mais aussi les mécanismes à mettre en place pour mieux protéger la population. Un reportage d'André Kitenge.
À Masambo, on peut s'apercevoir encore des stigmates de cette attaque, des maisons, boutiques et pharmacies calcinées. Plus de la moitié des habitants ont quitté la localité pour d'autres endroits jugés plus sécures. Sur place, la délégation a rencontré le commandant des FARDC, les autorités civiles, notamment le chef de la localité et les représentants de la société civile. Ensemble, ils ont échangé sur la situation qui prévaut ainsi que les dispositions à prendre pour que pareille attaque ne se reproduise plus. Toutefois, la situation reste préoccupante. C'est pourquoi le chef de la localité appelle le gouvernement à renforcer les effectifs militaires autour de Masambo. Falcon Benga.
Plusieurs personnes, jusqu'à plus de 60% de la population, sont déjà partis vers Kassindi, Lume, Mutwanga, même jusqu'à Beni. Si le gouvernement continue à compter sur nous, je prierai toujours à ce gouvernement de déployer plusieurs militaires aux alentours de notre fief Masambo.
Les quelques habitants restés encore sur place n'ont qu'un seul vœu, le retour de la paix.
La situation est volatile, les habitants sont partis chacun pour soi. Ils ont trouvé refuge en brousse et jusqu'à présent, ils ne sont pas revenus. Nous sommes tous en brousse. Il n'y a plus déjà au village. La plupart sont morts. Les enfants sont partis en otage. Nous n'avons rien à dire. Aidez-nous avec la paix. Nous vivons par la grâce de Dieu.
Après l'attaque, l'effectif militaire a été renforcé avec la venue des soldats de l'UPDF.
C'était là André Kitenge qui nous appelait de la ville de Beni. En Ituri, pendant ces temps, au moins 15 000 élèves de 60 écoles de la chefferie de Babilaba Bombi dans le territoire de Mambasa n'étudient plus depuis environ 3 mois. C'est à cause de l'activisme des rebelles ougandais de l'ADF qui fuient les opérations militaires des FARDC pour s'installer dans la forêt de Mambasa. Les autorités scolaires redoutent une année blanche. Pour en parler, retrouvons à Bounia Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis plus d'une année que plusieurs agglomérations de la chefferie de Babilaba Bombi dans le territoire de Mambasa sont la cible d'attaques des rebelles des ADF. Pillages, meurtres et incendies des maisons des civils ainsi que des installations sanitaires ont été enregistrés dans cette entité, indiquent des sources locales. Selon le président du Parlement territorial des jeunes, au moins 60 écoles dans les entités de Lukaya, Makumo, Njiapanda et Makiki ne fonctionnent pas à cause de cette insécurité. Suleiman Onokoko.
Les écoles aussi sont des victimes. Et 60 l'équivalent presque de 15 000 enfants sont abandonnés à leur triste sort et surtout les finalistes qui préparent les épreuves ici sont à fuite.
De leur côté, les autorités scolaires redoutent une année blanche pour les élèves de ces entités. Selon le président du syndicat des enseignants des écoles conventionnées protestantes, certains parents ont inscrit leurs enfants à Biakato à 12 km pour poursuivre les études. Olivier Marassi.
Sans intervention du gouvernement, je ne sais pas si vraiment il y aura les activités scolaires dans ces entités. Nous sommes en train d'appeler le gouvernement de venir en aide. Je pense qu'il y aura un nez blanche dans ces entités-là.
Tous nos efforts pour entrer en contact avec les autorités locales à ces sujets n'ont pas abouti. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis le gouverneur de l'Ituri vient d'effectuer pour la première fois une mission d'itinérance dans les localités de Chomia et de Kasenyi, situées à 60 km au sud de Bounia. Le général Johnny Nkashama a annoncé à l'occasion à la population qu'il est temps maintenant de passer au développement tout en consolidant la paix dans ces entités. Les habitants ont relevé à l'occasion certains défis pour booster l'économie dans la région et restaurer un climat de paix. À Bounia, Isaac Remoyope.
Avant l'instauration de l'état de siège en Ituri, certains groupes armés dont la CODECO et le FPIC étaient actifs dans plusieurs localités sur l'axe Bounia-Kasenyi. Il s'agit notamment des Ekere, des Kotoni et des Nyakeru, mais aussi des localités situées à la périphérie de Bogoro et proches de Kasenyi et Chomia. Selon de nombreux habitants, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée depuis bientôt 4 mois dans la région. Dans un meeting populaire sur place, le gouverneur des provinces a déclaré que depuis l'instauration de l'état de siège, plusieurs efforts ont été déployés par le gouvernement pour la restauration de l'autorité de l'État dans ce coin. Les militaires ont été renforcés à Bogoro où se trouve un état-major des FARDC pour traquer ces groupes armés et à Kasenyi où il y a une base de la force navale. Le général Johnny Kashama a indiqué que désormais, le développement du milieu constituait sa priorité. Parmi les projets déjà réalisés, il y a la réhabilitation du tronçon Bounia-Kasenyi, ce qui facilite les transactions commerciales entre la RDC et l'Ouganda, mais aussi les interventions militaires pour consolider la paix. D'autres projets du gouvernement sont en cours dans les cadre du programme de développement des 145 territoires de la RDC, a-t-il ajouté. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi, sachez qu'un retard est constaté ce jour-ci dans le paiement de la prime des policiers sur toute l'étendue de la RDC. En mission de travail à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, le commissaire général adjoint de la police nationale chargé des ressources humaines affirme que ces policiers doivent s'armer de patience avant que leur prime ne soit logée dans les banques locales. Il rassure que la situation sera décantée au plus vite. Le général Célestin Bengama s'est confié à Cynthia Bachizina Bizana.
Il y a des policiers qui n'ont pas perçu leur prime. Mais le problème, ce n'est pas la police qui en est responsable. Il y a un montant qu'on défalque sur la prime des policiers pour donner aux banques commerciales. Nous avons appris que ce montant n'avait pas été décaissé. Raison pour laquelle certaines banques ont refusé carrément de payer les policiers. D'autres, par contre, se sont butés à des problèmes d'insécurité. Vous savez, il y a certains coins de la République où des problèmes d'insécurité se posent, ou d'accessibilité, ce qui font que le banque refuse. Alors ça pose un problème que nous devons revenir à l'ancien système qui est la paie manuelle. Alors mettre tous ces systèmes-là en place, c'est ce qui nous pose le problème. Donc je pense que dans les jours à venir, ce problème sera résolu.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce jeudi à Kindu d'un atelier de renforcement des capacités des enseignants et des autorités scolaires. Ces assises de 3 jours portent notamment sur le droit des femmes et les instruments juridiques qui les protègent. Objectif visé, selon le point focal du Fonds pour les femmes congolaises du Maniema, sensibiliser les participants à ces assises à accompagner les filles à dénoncer quotidiennement les violences sexuelles et celles basées sur le genre en milieu scolaire. Madame Zahira Chami le dit à Florence Kizalunga.
On les renforce d'abord en capacité et on est sûr qu'ils vont nous aider à accompagner les filles leaders de leurs écoles respectives. Après cet atelier de renforcement des capacités porte sur les violences faites aux filles et aux femmes en milieu scolaire. Moi, je pense que vous êtes sans ignorer. Vous savez très bien. Donc, dans le milieu scolaire, c'est là où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences faites aux élèves. Dans la plupart des établissements, on les appelle les points sexuellement transmissibles. Vraiment, ça nous décourage, nous, les parents. C'est pourquoi l'EFFC a pensé à organiser cet atelier aux autorités scolaires ainsi qu'aux élèves pour qu'ensemble, on puisse essayer de terminer définitivement ces violences en milieu scolaire.
Politique à présent. Audition hier à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa du ministre des Transports. Répondant à la question d'actualité lui adressée par le député national Célestin Engelimba, Chérubin Okende a parlé de l'importance de la décision qui a été prise et portant baisse de prix de billets d'avion. Il a annoncé la création d'une nouvelle compagnie publique d'aviation en RDC. Ces mesures n'ont pas du tout convaincu l'auteur de la question d'actualité, faute de débat. Le compte-rendu de Michel Kifindangoy.
Dressant un état des lieux de son secteur, le ministre a relevé que depuis un temps, il observe une grande perturbation dans la desserte des vols domestiques dans le pays, particulièrement la suspension des lignes, bousculade et débarquement des passagers, mais une solution est en cours, souligne Chérubin Okende.
Il y a également un partenariat stratégique avec Ethiopian. Il y a 7 avions de nouvelle génération qui peuvent nous permettre même de commencer des vols internationaux et soutenir le trafic domestique dans notre pays qui sont aujourd'hui en voie d'être opérationnels dans notre pays sous le drapeau Air Congo, donc une nouvelle compagnie aérienne nationale.
En réaction, l'auteur de la question d'actualité souligne la nécessité d'un débat sur la problématique des transports aériens. Célestin Engelemba.
C'est un peu difficile de voir qu'un grand pays comme ça n'a pas d'avion. Mais comme il n'y avait pas de questions à poser, il y a quand même des zones d'ombre que nous devrions voir dans les jours qui viennent comment nous prendre. Et même si le ministre a dit que nous devons avoir 3 ou 7 avions par le partenariat avec l'Éthiopie, mais il ne nous dit pas là où la RDC doit avoir ses propres avions.
Le député Célestin Engelemba classe l'achat des avions propres à la RDC parmi les priorités du gouvernement.
Merci Michel Kifindangoy pour ces précisions. Et puis l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime organise depuis hier ici à Kinshasa une table ronde sur l'appréhension de la corruption comme moteur de la perte des forêts, d'espèces sauvages et de la biodiversité. Dans un atelier interagence, le débat a porté sur le rôle de la société civile, du milieu universitaire et des médias dans la protection de l'environnement contre les effets de la corruption. Explication avec vous, Jeff Ngoy.
L'atelier national vise à renforcer les connaissances et discuter plus avant des facteurs de perte de forêt, sinon de la destruction de notre environnement et du changement climatique en RDC. Également de la manière dont la corruption peut faciliter ces facteurs et du rôle à jouer par les différentes parties prenantes dans les réponses à apporter et des domaines prioritaires pour les interventions futures. Certains intervenants à cette table ronde pensent que le non-respect des textes tels que le code forestier, l'attribution illicite des permis d'exploitation forestière, le foisonnement des lois devant être écoulé en un code pénal forestier, l'impunité particulièrement constitue des facteurs de destruction de nos forêts. Une des solutions envisagées consiste à bien appliquer les textes et à sanctionner les contrevenants, à sensibiliser et dénoncer les activités illicites dans le secteur, à renforcer les capacités des opérateurs judiciaires ainsi qu'à redynamiser l'administration publique.
Actualité internationale.
condamné à la prison à vie par le tribunal militaire de Ouagadougou pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara il y a 34 ans, Blaise Compaoré est exilé en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Il n'est jamais rentré au Burkina Faso depuis, même si son retour a fait l'objet de négociations politiques. D'ores et déjà, après ce verdict d'hier, son retour est de plus en plus compromis. Au 43e jour ce jeudi de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'est du pays est désormais la cible prioritaire du Kremlin. Les habitants de la région ont été appelés à fuir les affrontements qui s'annoncent et à se mettre à l'abri du danger en dépit des nouvelles sanctions américaines dévastatrices contre la Russie.
L'invité.
Notre invité, c'est la directrice générale de la mobilisation des ressources, partenariat et financement à l'Alliance du vaccin. Madame Marie-Ange Saraka Yao affirme que la RDC fait partie des pays qui ont un taux de couverture vaccinale de base de près de 90% et s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Marie-Ange Saraka Yao, bonjour.
Bonjour.
D'abord, Gavi, c'est quoi et quels sont ses objectifs?
Alors, Gavi, c'est une alliance qui regroupe tous les partenaires, en fait, clés de la santé, y compris les agences mondiales telles que l'OMS, l'UNICEF, mais aussi la Banque mondiale. Évidemment, les pays que nous soutenons, les pays donateurs, les groupes pharmaceutiques, les agences de recherche. Donc, c'est vraiment une alliance qui a été formée au début des années 2000 pour soutenir les efforts d'immunisation des pays. L'idée, c'est vraiment de regrouper l'ensemble des pays à faible revenu pour créer une force de frappe, si je puis dire, pour réussir donc à créer un marché et donc à avoir accès à des vaccins à des prix abordables et surtout donc justement en se basant sur les économies d'échelle.
Puisqu'on est dans la vaccination et l'immunisation, quel rôle joue Gavi dans la riposte contre le Covid-19 dans le monde en général et en Afrique en particulier, notamment dans le cadre du programme COVAX?
Alors, fort de son expérience de 20 ans, lorsque la crise du Covid a éclaté, naturellement, les partenaires se sont tournés vers Gavi et les autres membres de l'Alliance pour aider à monter une réponse rapidement. C'est ainsi que, en fait, la plateforme qu'on appelle communément ACT-A a été lancée, et plus particulièrement la plateforme COVAX qui se focalise justement sur la réponse vaccinale. Donc Gavi est vraiment le chef de file avec les autres partenaires de l'Alliance pour cette réponse. Et de cette expérience, donc Gavi s'est attelé donc pour vraiment pouvoir développer un portefeuille de vaccins large et étendu, en tout cas qu'on peut offrir aux pays pour la réponse vaccinale. Donc à ce jour, COVAX, sous donc l'impulsion de Gavi et des autres partenaires, a aujourd'hui livré plus de 1,4 milliard de doses de vaccins à 145 pays et 90% donc vont aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Et dans ce cadre-là, donc environ 1,2 milliard a été donc livré aux pays AMC et l'Afrique a reçu près de la moitié de ces vaccins.
Oui, près de la moitié pour le continent africain. Quelle est la part de la RDC?
Alors, la RDC a reçu plus de 5 millions de doses de vaccins, principalement donc les vaccins ARN messagers, mais aussi de certains des autres vaccins.
Le taux de vaccination contre le Covid-19 est encore en dessous de 15%, du moins jusqu'au mois dernier, et de moins de 1% en RDC. Comment Gavi explique-t-elle ce déficit de couverture vaccinale contre le coronavirus sur le continent en général et en RDC en particulier?
Au début, la préoccupation principale quand la crise du Covid a éclaté, c'était vraiment de pouvoir avoir accès aux vaccins. Maintenant, ce qui est positif, c'est qu'on a les vaccins dans des volumes importants et on peut donner aussi la prévisibilité au pays. Donc, je pense qu'un des premiers freins au départ, c'était déjà pouvoir avoir accès aux vaccins. Et maintenant que ces vaccins arrivent, la priorité, c'est vraiment soutenir les pays pour augmenter la capacité, pour faire le renforcement du système de santé, de façon à ce qu'au fur et à mesure que de grandes quantités de vaccins arrivent, ils puissent être administrés et que les services de santé donc puissent être soutenus de façon importante. Au niveau de la RDC, je dois dire que la RDC a été de tout temps un champion de l'immunisation. C'est un des pays qui a eu le plus de soutien dans les 20 dernières années et qui, en fait, en termes de taux d'immunisation de routine, a parmi les taux les plus importants pour la couverture de base, près de 90%, ce qui est vraiment exceptionnel. Il est très clair que la crise de la pandémie a affecté donc les services de santé. Donc maintenant, nos efforts conjoints, c'est de restaurer ces services pour que justement on puisse accélérer la vaccination aussi Covid, en même temps que les autres vaccinations qui sont très importantes, comme on sait, la rougeole, toutes les autres vaccinations qu'il faut restaurer au système de base. Donc nos équipes travaillent d'arrache-pied. Il y avait une mission il y a 15 jours. Je sais qu'il y a une autre mission qui arrive encore dans quelques jours. Donc on est optimiste parce qu'on sait que la RDC est un champion de l'immunisation à tous les niveaux, que ce soit dans le cadre, comme on l'a vu avec Ebola ou beaucoup d'autres maladies. Mais la pandémie a joué un rôle important. Il faut pouvoir renforcer les systèmes, rassurer aussi la population parce qu'il y a eu une hésitation vaccinale. Dans certains pays, c'est important de pouvoir donner toutes les informations, mais surtout soutenir les systèmes de santé pour les restaurer.
Merci beaucoup, Madame Marie-Ange Saraka Yao.
C'était l'invité de Radio Okapi, Madame Saraka Yao, qui est la directrice générale de la mobilisation des ressources, partenariats et financement à l'Alliance du vaccin. Il était interviewé ici à Kinshasa par Honoré Missinga Kalala. Il est 18h20 à Kinshasa. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Merci à Noëlla Luzitu Kamambi et Pelekipela Mondo qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.